France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Hardy Dutronc, féminin masculin. Épisode 4, l'enfant entre les deux.
C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un papa extraordinaire.
Je recommence, moi.
C'est elle qui a insisté pour qu'ils aient un enfant ensemble, et pourtant, l'avenir de leur relation n'avait rien d'évident. Après l'épisode du foulard rouge, c'est-à-dire leur première nuit passée ensemble, tous les deux ne s'étaient plus quittés en l'espace de quelques mois. Et puis, comme on l'a dit, Jacques avait commencé à s'éloigner d'elle. Avant la naissance de Thomas, Jacques et Françoise ne se voyaient encore que quelques fois par mois. Elle vivait dans son appartement parisien de Saint-Louis-en-Lille, lui habitait rue de Provence, et cette vie de proximité lointaine durait déjà depuis 6 ans, quand un jour...
Ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs, au fond à gauche, là dans la porte que vous connaissez tous. Et puis dans la même pièce, enfin...
Et vous allez changer quelque chose alors à votre façon de vivre?
Ah ben, non. C'est-à-dire que c'est lui qui entrera dans la nôtre, surtout. On va pas tout transformer pour lui, au contraire, c'est à lui à s'habituer à notre vie, je pense.
Il y a quelques années, Jacques Dutronc, vous avez sorti, vous avez inventé un piège à filles.
Oui.
Est-ce que vous allez transmettre ce secret à votre fille? Autrement dit, est-ce que vous allez
le vendre? Oui, bien sûr.
J'espère.
Je voulais le vendre et en fait, j'ai gardé. Je pense qu'il s'en servira. C'est pas du tout usé, je pense. Il est pas rouillé du tout et ça marchera sûrement. Et puis peut-être que je serai pas si vieux que ça à l'époque où il s'en servira. On pourra toujours se l'arranger.
Ouais, c'est... Déjà, ça m'amuse d'entendre comme ma mère est. Mon père peut dire n'importe quoi, ma mère en admiration totale. Ils sont complètement fous. J'ai deux parents complètement fous. Donc, moi, c'est comme ça que je les vois, en fait. J'ai deux parents fous et j'essaye d'être moins fou.
Et oui, le 16 juin 1973, Jacques Dutronc a eu une occasion de mettre le champagne au frais avec la naissance de son fils Thomas, qu'on entendait ici commenter une archive de son père. Mettre le champagne au frais, c'est le rôle du papa, une sacrée responsabilité quand on y pense. Une responsabilité si lourde qu'elle a, semble-t-il, mis Dutronc en retard au moment de partir à la maternité.
Je sais pas, elle a eu je ne sais quoi. Bon, donc elle est partie en taxi... Sur les conseils de sa maman, à l'hôpital, et vers, je sais pas, 4 heures, je sais pas quoi, on m'a appelé en disant, je pense que ça va être fait, tout ça. Moi, tout était prêt. Bon, eux, ils préparent les linges, les machins, la chambre, le lit, je sais pas quoi, mais moi, tout était prêt. Je peux te dire que c'était au frais, là. Non, ça, c'est un prétexte. Aucun médecin peut m'interdire de boire. Non, non, naissance d'un enfant, faut pas charrier. Que ce soit la mort du père, tant pis, mais ça se fait. Et donc, je suis allé à l'hosto et on m'a dit, il est là. Alors, c'est vrai, hein, ça fait 40 fois que je le dis, mais... Et je suis venu en Lamborghini et tout. Enfin, bon, c'était amusant. Et j'arrive, genre, il est où et tout. On me dit, c'est celui-là. Il était rouge, avec des traces de griffes. Je sais pas ce que c'était, là. Au-dessus de la pommette, là, entre les yeux et les oreilles. J'ai dit, il est trop rouge, je ne peux pas avoir celui-là. Alors, l'autre m'a dit, mais enfin, attends, je ne sais pas d'où est sorti. Enfin bon, elle a très mal pris l'affaire. Et donc, j'ai donc hérité de Thomas et je me suis pas gouré.
Véronique Mortaigne, vous êtes journaliste au Monde notamment et vous êtes avec nous pour commenter les archives de cet épisode. Une réaction déjà sur celle qu'on a entendue?
C'est très drôle parce qu'en fait, il est complètement ému. Et ce qu'il raconte, c'est un roman qu'il raconte. Il a mis le champagne au frais. Il a raison, c'est le rôle du père de mettre le champagne au frais, peut-être. Maintenant, encore que, on peut très bien le faire nous-mêmes. Mais quand on accouche, effectivement, s'il y a quelqu'un qui met du champagne au frais, c'est parfait.
Oui, mais il n'y avait personne à la maternité au moment où Françoise Hardy a accouché. C'est un peu ça qu'on entend quand même en creux. Lui, il était en Lamborghini.
C'était quand même, oui, alors Lamborghini. Oui, mais c'était quand même un peu l'usage. Hein, donc les papas n'étaient pas forcément présents aux accouchements, et encore maintenant. Donc, il ne faut pas avoir une image non plus trop lénifiante de la réalité des choses.
Hein. Donc on entend l'époque, en fait, dans ce que dit aussi Dutronc.
On entend l'époque et on entend... Moi, j'entends la voix d'un mec super ému, quoi. C'est-à-dire que... Et qui raconte ça comme un épisode de roman. Bon, bah, il n'était pas là, mais il retient juste qu'il avait ce champagne qui veut vivre, qu'on ne peut pas lui interdire de boire de l'alcool. Il vaut mieux un père mort, hein, c'est ce qu'il dit, c'est très intéressant. Après, il y a une Lamborghini, on ne sait pas si c'est lui qui la conduisait ou s'il était avec un copain. Et il arrive, il a ce bébé, mais c'est très réel, en fait, c'est très sincère, encore une fois, parce que sous des dehors totalement iconoclastes, il peut être d'une sincérité abrasive, Jacques Dutronc, parce que, en fait, il dit oui, bah, c'est la réaction de beaucoup de parents, y compris des mères, de dire mais c'est quoi ce machin tout fripé, tout rouge, il a des griffures, ça veut dire quoi? Alors, comme il a d'humour, il demande s'il ne peut pas changer et prendre celui d'à côté qui est plus joli. Et voilà, et tout ça. En quelques mots, il raconte ce roman, cette surprise, cette affection qu'il a immédiatement pour son fils.
Difficile, une fois de plus, de distinguer la part d'auto-caricature, d'auto-dérision que se donne Dutronc quand il raconte la naissance de son fils. Toujours est-il que ce 16 juin 1973 marque une rupture dans la vie du musicien. Qu'il le veuille ou non, il est maintenant père de famille. Il va falloir mettre en veilleuse le piège à filles, au moins durant quelques temps, mettre à la cave le truc qui fait crac-boum-hu. Le 28 avril 2005, Thomas Dutronc expliquait à Olivier Bas qu'il avait conscience que c'était sa venue au monde qui avait réuni ses parents sous un même toit.
Et là où c'est extraordinaire, donc la scène, vous êtes à la clinique, là, tous les trois. Lui a quand même le cigare à la bouche, dans la maternité. Et vraisemblablement, ils ne s'étaient pas vraiment beaucoup parlé avant de la façon dont ils allaient vous éduquer. Quoi. Moi, c'est ça ce que je ressens d'absolument magnifique. Et le piège à filles, c'est pas mal non plus.
Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils étaient dans un tourbillon professionnel tellement intense qu'ils ne pouvaient pas discuter de ça. Puis je crois qu'ils... A priori, d'après ce que me racontait ma mère, ils ne se sont pas vus beaucoup seul à seul aussi. C'est complètement incroyable, mais ils ne se voyaient jamais en fait. Donc, c'est un peu moi qui ai réuni, à l'âge de 1 an, mon père est venu s'installer dans la maison familiale. Mais sinon, avant, ils ne vivaient pas ensemble. Quoi. Ils passaient des moments ensemble, mais je ne sais pas, ils ont dû dîner 3 fois en tête à tête ou des trucs incroyables comme ça. Donc, c'est vrai qu'on est dans le domaine de l'abstraction pure. Bon, l'histoire du piège à fille, je sais pas, bah c'est... Je t'en dis... je ne dirai rien.
Dans la biographie croisée que le journaliste Yann Plougastel a rédigée sur Jacques Dutronc et Françoise Hardy, un chapitre est consacré à leur fils Thomas, dont une grande partie prend la forme de verbatim. En voici un extrait. Maman a toujours assuré à fond côté intendance familiale. Elle faisait les courses et à manger. Les problèmes ménagers l'ont toujours beaucoup intéressée. Je ne sais pas comment elle conciliait ça avec son boulot. J'ai d'ailleurs toujours été sidéré que mes parents, avec leur train de vie, n'aient pas quelqu'un pour prendre en charge les aspects matériels. Ainsi, tous les matins, maman me préparait mon petit déjeuner et à midi, mon repas. Et puis Thomas termine. Papa l'engueulait chaque samedi soir parce qu'elle ne saisissait pas assez le roast-beef. Véronique Mortaigne, que pensez-vous de tout ça?
Françoise Hardy, elle a toujours voulu donner une structure solide à un enfant qu'elle aurait, parce qu'elle-même n'avait pas vécu ça. Et notamment, elle n'avait pas de structure paternelle. Donc c'est assez habile, finalement, de trouver un père, mais un père qui n'est pas absent. Il n'est pas absent de la vie de Thomas, il est absent physiquement de sa vie à elle, mais c'est le père de Thomas. Indéniablement, alors qu'elle avait vécu une situation compliquée avec un père qui était déjà marié, qui s'avérait homosexuel, donc c'était déjà très compliqué, une sœur schizophrène, une mère malade, donc elle ne voulait pas ça.
Elle voulait une famille, et elle a réussi à avoir la famille comme elle le désirait.
Aussi surprenant que ce soit dans ce cas de figure, avec des personnes, comme dit Thomas, qui ne se voyaient pas physiquement dîner quelquefois ensemble ou avec une présence en pointillé.
Il y avait un étage séparé, comme on l'a dit dans
la maison.
Un étage
séparé, bon, mais ça pouvait arriver à l'époque, ça peut encore arriver que des gens fassent couple. en habitant l'un en face de l'autre, ou, etc. Donc, en se départissant de la morale bourgeoise, ou de, en tout cas de l'image sociale, qui en fait n'a jamais vraiment préoccupé ni Françoise, ni Jacques, cette image, cette persona de ce que pouvait représenter un couple, etc. Donc, elle a cherché ça, d'où le petit déjeuner, le déjeuner, etc. Le côté habitude créé par un Jacques qui hurle parce qu'elle saisit pas, c'est le rosebif. Donc, on a l'impression qu'ils sont ensemble tous les samedis soirs, même si le mari a fait représentant de commerce pendant la semaine. Et de fait, ils font un enfant structuré.
Ce qui est très étonnant, c'est le côté très conventionnel et en même temps très anti-conventionnel. Ce couple-là, c'est presque un laboratoire finalement.
C'est un laboratoire de droite, hein, faut quand même le dire, parce que tant Dutronc que Hardy sont des gens qui représentent des valeurs de la droite politiquement.
Hein. Et donc de la famille de droite
aussi, oui, parce que les déclarations de Françoise sur l'homosexualité, par exemple, etc., c'est quand même très marqué. Et en fait, à un moment donné, Dutronc faisait presque à gauche par rapport à elle, mais en fait, non, ils sont dans une conception assez traditionnelle de la société, des limites sociales, et ils sont dans les limites, y compris Dutronc. Boire, c'est pas interdit, séduire des femmes, c'est pas interdit, ils sont pas dans les interdits. Mmh. Hein. Donc la transgression, c'est pas leur truc hein, non plus. Et de pas vivre ensemble physiquement n'est pas une transgression en soi.
Hein. Pourtant, ils ont été vus comme un couple un peu transgressif par les Français.
Birkin et Gainsbourg étaient extrêmement transgressifs. C'était sulfureux, c'était un exercice de genre aussi. Hein. Très androgyne, les deux, très ambigu sur le genre. Et ça n'était pas le cas d'Hardy Dutronc, qui fascine aussi, parce que dans le fond, ils sont complètement normaux, entre normés. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on s'attache à eux.
Plus j'avance dans l'écoute des archives et plus se renforce chez moi la conviction que la famille Dutronc a été une famille presque normale, c'est-à-dire sans doute un peu dysfonctionnelle, comme toutes les familles, mais surtout imprégnée des mêmes préjugés que la majorité d'entre elles, des mêmes façons de fonctionner entre les hommes et les femmes, de la même manière d'élever un enfant. Une précision ici au passage. Regarder le couple Hardy-Dutronc sous l'angle des questions de genre peut paraître un peu anachronique. J'avoue qu'il est facile de juger les relations hommes-femmes des années 60, 70 et 80 à l'aune de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et puis, je ne voudrais pas sous-entendre que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas, elle aussi, imprégnée de préjugés. Elle l'est tout autant, évidemment, simplement ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais je crois que ce qui est intéressant, justement, avec les archives, ce n'est pas de juger le passé, mais de se rendre compte de ce qui a changé, de la distance qui a été parcourue. D'ailleurs, si dans 40 ans, quelqu'un retombe sur des archives, de salles des archives, cette personne pourra facilement repérer ses clichés, ses impensés, ses présupposés de 2025 qui, forcément, lui sauteront aux oreilles. Fin de la parenthèse. Si les Dutronc-Hardy ont donc eu, d'une certaine manière, une vie de famille normale, c'est aussi parce qu'ils ont toujours entretenu une certaine distance avec le star system auquel pourtant ils appartenaient.
Certaines vedettes font participer leurs enfants à leur vie publique. Qu'est-ce que vous allez faire?
Moi, je suis plutôt partisane du contraire, parce que je trouve que, qu'un enfant, c'est mieux qu'il ait la vie la plus normale possible.
Ah ouais, entièrement d'accord.
Françoise Hardy et Jacques Dutronc ont su élever leur enfant loin des journaux People et sans le mettre en scène. Ils ont su séparer le plus possible leur travail d'un côté et leur vie privée de l'autre. Comme tous les parents, ils ont été confrontés à la question de l'éducation. Et comme tous les parents, ils ont cherché à corriger avec leur enfant ce qu'ils n'avaient pas aimé dans leur éducation à eux.
Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une attitude par rapport à ses enfants qui est un petit peu en réaction par rapport à celle que vos parents ont eue vis-à-vis de vous, enfants. Et donc, ma mère avait une façon d'élever ses enfants assez militaire, quoi, très très réglementée. Et moi, j'ai laissé mon fils toujours libre de se coucher à l'heure qu'il souhaitait. J'ai plutôt suivi son rythme que je ne lui en ai imposé.
Les Dutronc semblent donc des parents laxistes. Dans la biographie de Yann Plougastel, Thomas Dutronc raconte « À ma manière, j'étais assez dictateur et tyrannique. Je pense d'ailleurs que j'ai pas mal embêté ma mère. » Si je ne voulais pas me laver les cheveux, personne ne m'obligeait à le faire. Et au bout de quelques jours, papa me payait pour que je le fasse. Si ça se trouve, c'est pour cela que Jacques Dutronc ne se lavait pas le pied gauche quand il était petit. Il espérait peut-être que ses parents lui donneraient de l'argent pour le faire. Sur les relations entre Thomas et sa mère, on trouve dans la salle des archives une émission de 1993 dans laquelle Françoise Hardy est interrogée à ce sujet.
Votre fils doit être fier de vous, non ?
Vous savez, je pense pas qu'il se préoccupe beaucoup de...
Non ?
Non, enfin je pense... Non. Je sais pas.
Je sais pas.
Non, mais ça m'est très difficile de répondre à des questions comme ça. Je sais pas, parce que ça n'entre pas en ligne.
Comment ça se passe, la relation entre lui et vous, votre fils et
mais
vous.
Pour l'instant, ça fait un certain nombre d'années qu'il vit sa vie, qu'il est tout le temps fourré avec ses copains. Bon, il a déjà 19 ans, donc... Ouais, ouais.
Il est photographe.
Non, il n'est pas photographe, il a fait des photos récemment, mais il n'a pas d'activité professionnelle précise encore.
Ça doit être dur, non, d'être le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc.
Ça, c'est à lui qu'il faut...
Non, mais vous êtes une dame intelligente, vous avez réfléchi à ça.
Écoutez, je ne sais pas, parce que depuis que j'ai un fils et que je m'entends traiter de débile mental à tout bout de champ...
Ouais. Donc vous voyez, vous êtes intelligente puisque vous l'acceptez. Vous ne l'avez pas giflé quand
non, mais non, mais je crois que tout dépend de la manière dont on vit avec son enfant. Je crois que pendant pas mal d'années, on a eu avec Thomas une existence tout à fait comparable à celle de n'importe qui.
C'est possible, ça ?
Ah ben tout à fait, parce que moi je ne fais pas de scène, donc je fais le minimum par rapport aux disques que je peux enregistrer. Donc ça veut dire que j'ai pu être à la maison tout le temps, et qu'on a pu vraiment vivre avec lui exactement comme n'importe quel parent.
Véronique Mortaigne, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de dire ?
C'est vrai, elle ne fait pas de scène, donc elle n'est pas sur les routes à longueur de temps. Et c'est vrai que de lui poser des questions alors qu'elle devrait s'adresser à son fils, si jeune soit-il, ça la gêne. Elle est au bord de la crise de nerfs, là. Elle rigole, mais enfin, elle est quand même très gênée par ces questions. Elle a raison, d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce qu'il est fier ? Oui, il a montré très bien qu'il était fier ensuite.
Il l'a dit aussi, d'ailleurs.
Il le dit, évidemment. Il a fait en sorte de la garder en vie le plus longtemps possible. Il tenait beaucoup. Vous savez qu'elle défendait le principe de l'euthanasie, que lui était très opposé à ça, et que finalement, il a tenu bon tout le temps, et elle aussi. Et là, il y a aussi une cellule familiale importante au milieu de la fin de vie de Françoise Hardy. Alors, il est avec ses copains, etc. Enfin, c'est assez banal, en fait. Hein, et le rire de Françoise Hardy, parfois, souligne la banalité des propos.
C'était quoi, selon vous, la relation mère-fils, qui a dû être différente, évidemment, aux divers moments de leur vie à l'un et à l'autre. D'abord, quand il était adolescent, et puis ensuite, quand il est devenu un musicien, puis un musicien reconnu.
Il a trouvé une voie de passage, on va dire. Hein. Donc, alors, il se met à la guitare et il joue une musique un peu marginale, quand même. Une musique de gitan, qui est une communauté qui l'adopte et qui n'est pas une communauté banale. Hein. Alors, forcément, oui, on peut admirer Django Reinhardt, mais enfin, lui, il rentre vraiment dans cette culture.
Ce n'est pas évident de connaître cette culture et de se faire accepter aussi par ce monde-là.
Ce n'est pas évident. Donc, il trouve la voie, puisque la question est posée à Françoise Hardy. Comment il va faire ? Est-ce que c'est facile d'être le fils de deux stars, hein, autant Gainsbourg met Charlotte en scène, hein, complètement. Il lui crée une histoire, il lui crée une vie. Il est beaucoup plus misogyne que Jacques Dutronc, par ailleurs. Mais il crée une vie à sa fille Charlotte, qui est la fille d'eux et d'eux. Mmh. Et lui, là, Thomas, il lui laisse assez d'espace pour qu'il choisisse une voie. Et il choisit une voie qui est à la fois « pas normale », entre guillemets, et en même temps très normative, hein, puisque donc c'est une communauté gitane qui a ses codes, qui a sa musique, qui est structurée, qui n'est pas la communauté bohème du cinéma, des Lolitas, des machins, tous les trucs dans lesquels finalement Gainsbourg engage sa fille Charlotte.
Beaucoup de familles, les adolescents aspirent à devenir le contraire de leurs parents. Et puis, dans le meilleur des cas, avec l'entrée dans l'âge adulte, vient le moment du rapprochement avec la famille. Thomas Dutronc se place dans ce cas de figure-là. On l'entend dans cette archive.
Je suis plus marqué, si vous voulez, par la vie quotidienne de mes parents que par leurs chansons. Mais ça en fait partie, quelque part. C'est une des composantes, forcément. Donc, ce que je dis toujours, par exemple, pour mon père, à part quelques très bons films qu'il a fait, souvent, ces films, je trouve que je suis atterré parce que je me dis, en fait, si on passe une heure et demie au bar en Corse avec lui, c'est dix fois mieux. C'est dix fois mieux que les scénarios qu'il cherche. Son univers et son humour et son charisme, dans la vraie vie, sont tellement supérieurs au rôle qu'on lui fait faire que c'est toujours un peu décevant de voir ces films.
Il est aussi nonchalant et détaché de tout qu'il en a l'air, ou comme père, il a pu être parfois la figure de l'autorité?
Là, on rentre dans le côté famille Dutronc, parce que c'est pas que Jacques Dutronc, c'est la famille Dutronc. Là, d'ailleurs, il y avait beaucoup de musiciens dans la famille Dutronc, parce que c'est des gens qui... mon grand-père était le seul qui a pas été un peu, on va dire, dans l'église et tout ça. Sinon, il y a eu des jésuites et tout ça. C'était des gens qui était assez fin et qui aimait beaucoup la musique et qui ne parlait pas forcément. Bon, les gens se parlaient beaucoup moins aussi dans les anciens temps, mais c'est le dialogue était pas très facile entre père-fils et entre générations chez les Dutronc, on va dire.
On parlait pas beaucoup.
Voilà, c'est la musique. Du coup, il y a la musique qui vient pour partager. Voilà, il y a un côté très pudique chez les Dutronc.
Véronique Mortaigne, on a parlé du rapport mère-fils. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport père-fils, qui semble d'ailleurs se répéter d'une génération à l'autre, si on entend ce que nous dit Thomas?
Mais Thomas doit chercher les moyens de se rapprocher de son père, consciemment ou inconsciemment. Et effectivement, là, ce qu'il explique, c'est que y a la musique qui rapproche. La musique est silencieuse, d'une certaine manière. D'un point de vue psychanalytique, on va dire, elle arrive à bas bruit. Et massivement, en même temps, encore une fois, on est quand même toujours dans ce truc assez insaisissable et élégant à la fois, puisque Thomas a beaucoup d'élégance. Donc, quand il parle de la difficulté du dialogue, alors il parle des temps anciens où on pouvait c'est plus compliqué de se parler, mais en fait, non, pas forcément. C'est un cas de figure. C'est les Dutronc se parlaient pas beaucoup. Lui ne parlait pas beaucoup. Et lui a accès à son père par la musique, très certainement.
Et par des collaborations musicales.
Par des collaborations musicales et avec une certaine honnêteté, une certaine franchise. C'est assez amusant quand il critique les films de son père et qu'il préfère le voir au bar. Et c'est sûrement assez juste dans sa perception à lui. Et collaboration musicale, oui, jusqu'à ce qu'ils refassent de la scène ensemble. Mais ça, c'était plutôt... moi, je le vois comme une opération de sauvetage, un peu.
Plutôt du père, du coup.
De sauvetage du père, oui. C'est-à-dire, effectivement, de le sortir de ses limites dues à l'âge, de frontières financières aussi... Et de la longue maladie de la mère. Et c'était plutôt réussi. C'est plutôt bien fait. Et Thomas arrivait à s'effacer devant. C'est assez inusité quand même, parce que quand on est fils d'eux, ça peut être compliqué. Et quand on fait une scène avec le papa, c'est encore plus compliqué. Surtout que le père a eu un succès fou, pas seulement avec les filles, mais dans la musique, plus que Thomas, à vrai dire. Même si il a fait des chansons qui tiennent la route et qu'il a vendu pas mal de disques pour être sûrement le fils d'eux. Je dis ça dans un sens positif. C'était parce qu'il a une voix quand même qui ressemble beaucoup à son père, il a des attitudes qui ressemblent à la mère, donc c'est normal qu'on adhère à un personnage qui s'en sort bien au milieu de tout ça.
C'était un petit jardin qui sentait pour le métropolitain. Il sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
La relation entre Thomas enfant et son père ne passe pas forcément par la parole ou alors à demi-mot. En revanche, tous deux peuvent siffler ensemble des airs américains entendus dans les dessins animés de Tex Avery ou alors faire des blagues, des imitations de ce qu'ils voient à la télévision. Après le bac, Thomas se met à traîner davantage avec son père et les amis de son père. Des amis qu'il trouvait bien plus rigolos que les invités du rituel dîner de sa mère le samedi soir avec ses amis à elle, comme il l'a raconté à Yann Plougastel. Une fois adulte, il fait la synthèse et c'est avec les deux qu'il collabore musicalement. Archives du 30 juin 2007.
Moi j'adore mes parents et c'est sûr que pour moi c'est deux références, donc on est très proches aussi, donc je me sens pas le...
Vous n'avez jamais eu le sentiment que pour vous faire un prénom, fallait gommer votre nom, quoi?
Bah, j'ai fini par aimer la musique et la guitare par un concours de circonstances, mais j'aurais très bien pu aimer autre chose. Moi, j'aimais bien les sciences, la biologie, la science physique et les mathématiques, mais... j'étais assez doué en plus, enfin j'étais assez bon à l'école, mais mon professeur de mathématiques, monsieur Thomas Sillon, qui était génial, il me voyait pas du tout dans maths sup. Il m'a déconseillé, il m'a dit que l'ambiance des concours était pas faite pour moi. Alors je sais pas comment j'étais, mais bon, donc du coup je me suis dit il va falloir faire autre chose, quoi. Donc l'enfance que j'ai eue m'a rattrapé à un moment.
Est-ce que artistiquement parlant, vous avez le sentiment qu'il tient plus de l'un ou de l'autre?
Non, il ne tient pas plus de l'un ou de l'autre. Je pense que c'est un bon mix de papa-maman.
Thomas Dutronc a peut-être mis ses pas dans ceux de ses parents artistes, mais il a malgré tout emprunté une nouvelle voie, celle du jazz manouche qu'on ne retrouve dans le répertoire ni de l'un ni de l'autre.
Est-ce que c'est un genre qui est encore, j'ai envie de dire, lié au monde des manouches, ou est-ce que c'est simplement un héritage musical qui aujourd'hui maintenant est un petit peu partout
Ah non, là c'est complètement lié au,
aujourd'hui encore,
au monde manouche. Ah oui, moi j'ai rencontré tous les guitaristes manouches, j'ai commencé à les rencontrer à la Chope des Puces à Saint-Ouen. Bon,
la Chope des Puces à Saint-Ouen.
Ouais, c'est un petit bar où ça joue le samedi et dimanche après-midi avec Ninine et Mondine. Et de là, j'ai rencontré Roman, après Angelo, après Chavolo, Dorado, enfin Birelli Lagraine. Bon, c'est des gens qui, voilà, ça c'est...
sont vraiment eux
Stokely qui... Rosenberg, etc. Ah, oui, c'est...
Qui ont la connaissance profonde du style, en héritage direct.
Ce sont les meilleurs, et c'est eux, jazz manouche, eux sont manouches, ils jouent de la guitare,
Et donc, ce que vous nous dites, que c'est toujours, au fond, un peu comme à l'époque de Django ou des Frères Ferré, c'est pas devenu comme ça une espèce de style dont tout le monde peut s'emparer.
Forcément,
comme ça.
C'est très difficile, donc les maîtres sont manouches encore, ouais, c'est sûr.
Véronique Mortaigne, un dernier mot sur cette dernière archive?
C'est formidable, il s'est trouvé une communauté qui l'a sauvé des eaux, si je puis dire. Et il faut dire quand même que Thomas Dutronc est un excellent guitariste.
Comme l'était son père, d'ailleurs.
Comme l'était son père, mais lui, il joue vraiment très bien. Il est vraiment au niveau de tous les gens qu'il a cités, qui sont des manouches pur jus.
Pour faire de la psychologie un peu facile, on a l'impression que le jazz manouche, ça n'est pas dans le répertoire ni de Jacques Dutronc, ni de Françoise Hardy. Et c'est donc l'espace propre au fils, dans la continuité, puisque ça reste de la musique.
Et au-delà de ça, c'est une autre culture. C'est-à-dire qu'il sort aussi, pas seulement musicalement, mais d'un milieu dans lequel il est né, qui est un milieu bourgeois, qui est un milieu... très parisien, et là il en sort complètement, et ça c'est formidable, et qu'il aille faire ses classes aux puces, à la Chope des Puces, c'est assez génial. C'est son chemin propre et qui le fait sortir des limites qui lui avaient été imposées par sa naissance.
Les premiers grands succès musicaux de Thomas Dutronc vont bientôt donner l'impression d'un passage de relais artistique d'une génération à une autre. Pour nous, c'est le moment de retourner voir les parents et l'évolution de leur vie après le départ de leur fils, une vie ensemble ou séparée, en fait les deux à la fois, comme nous allons nous en rendre compte au cours des deux derniers épisodes. Hardy Dutronc, féminin masculin, est une série de Salles des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner, Anne-Vanessa Prévost. Prise de son Jean-Guilain Mège, documentation INA, Émilie Lacot. Mixage Tophar Guéride.